France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Au 14e jour du conflit au Moyen-Orient, les combats se poursuivent avec un premier soldat français tué et plusieurs autres blessés dans une frappe de drone au Kurdistan irakien. Une illustration morbide de plus de ce que cette guerre s'est aujourd'hui propagée à plusieurs pays de la région. Avec notre invité à l'occasion de la visite de Volodymyr Zelensky à Paris aujourd'hui, on parlera de l'Ukraine face justement aux enjeux de la guerre au Moyen-Orient. Suivre également le livret A appelé à financer en partie le programme de nouveaux réacteurs EPR en France. Enfin, on parlera élections municipales à 2 jours du premier tour de scrutin. Après que Téhéran a menacé de semer le chaos au Moyen-Orient, une attaque a donc causé la mort d'un premier militaire français au Kurdistan irakien, non loin de là, dans l'ouest de l'Irak. Un avion ravitailleur américain s'est lui écrasé, bilan au moins 4 morts. De son côté, l'Arabie Saoudite a déclaré avoir détruit plus d'une trentaine de drones, dont l'un visait le quartier diplomatique de Riyad. 2 personnes ont encore été tuées à Oman. Des explosions ont également fait trembler des immeubles à Dubaï. 1 troisième missile a été intercepté dans l'espace aérien turc tôt ce matin. Israël a appelé pour sa part sa population à se rendre aux abris tout en se félicitant d'avoir atteint la veille plus de 200 cibles en Iran. Et puis dans l'embrasement tous azimuts que connaît le Proche et Moyen-Orient, le spectre d'un nouveau front plane désormais sur le Liban, celui entre le nouveau pouvoir syrien sorti de l'axe iranien et le Hezbollah déjà engagé dans une guerre contre l'État hébreu. Enfin ce matin, la République islamique a lancé un nouvel avertissement et promet désormais une réponse plus cinglante encore qu'en janvier dernier en cas de nouvelles manifestations contre le régime. Autrement dit, au-delà même de la morale et du droit, il semble difficile aujourd'hui encore de trouver ne serait-ce qu'une seule bonne raison de se satisfaire de cette guerre censée d'abord sauver le peuple iranien, puis ramener Téhéran à la table des négociations et finalement l'empêcher de disposer de l'arme nucléaire. Au final, avec autant d'objectifs vaporeux sinon contradictoires, le règne de la force aura fini par s'étaler partout jusqu'à mener au plus grand conflit régional de ces 20 dernières années, un véritable cataclysme, en même temps qu'un désastre à la fois politique, militaire et humain. Et à ce titre, quand bien même le président Emmanuel Macron avait encore insisté ces derniers jours sur le rôle purement défensif de la France dans cette guerre, l'armée a donc annoncé la nuit dernière son premier mort, l'adjudant-chef Arnaud Frion du 7e bataillon de chasseurs alpins tué lors d'une attaque dans la région d'Erbil en Irak. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Culture dans la région. Alors pourquoi l'Irak? Les militaires français y sont engagés dans des actions de formation à la lutte contre le terrorisme. Sauf que depuis le début de cette guerre, Marie-Pierre, la région autonome du Kurdistan irakien et en particulier Erbil ont essuyé de multiples attaques imputées à des factions pro-iraniennes.
Oui, depuis hier, plus d'une trentaine d'attaques de drones, de roquettes, de missiles sur le seul Kurdistan irakien dans le nord du pays où le soldat français a trouvé la mort. L'Irak, où se trouvent plusieurs bases militaires américaines, avec dans le nord ces Peshmerga kurdes opposants au régime islamique. Ce sont donc autant de cibles et cocktails explosifs. L'Irak abrite plusieurs dizaines de milices pro-iraniennes comprenant des milliers de combattants. Elles appartiennent à cet axe dit de la résistance et qui comprend une myriade de groupes armés, le Hezbollah au Liban, le Hamas palestinien, les Houthis au Yémen et donc ces milices irakiennes, chiites pour la plupart, qui sont engagées pour défendre le régime islamique. D'ailleurs, dans son message hier, le guide suprême iranien les a remerciés et a appelé à étendre la guerre. Et ce matin, au lendemain de la mort du militaire français, c'est la milice irakienne Achab al-Kaf qui menace directement la France et ses intérêts dans toute la région, mettant en cause la présence du porte-avions Charles de Gaulle. Cette milice très radicale existe depuis au moins 2019. Elle a notamment revendiqué le meurtre d'un Américain à Bagdad en représailles à l'assassinat de Qassem Soleimani, commandant des gardiens de la Révolution. On disait cet axe de la résistance moribond après la guerre des 12 jours contre l'Iran en juin dernier. Mais l'on voit qu'il reste dangereux. Outre les milices irakiennes, le Hezbollah a coordonné des attaques avec l'Iran contre Israël. Les Houthis ont eux la capacité de perturber fortement le trafic en mer Rouge. L'Iran, qui n'a pas la supériorité militaire, entend bien semer le chaos dans la région et impliquer d'autres nations. Il cible ou fait cibler méthodiquement les intérêts occidentaux dans le Golfe et au-delà.
Merci Marie-Pierre Véraud.
Et c'est donc dans ce contexte particulier que le président Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui son homologue Volodymyr Zelensky.
Oui, le chef de l'État entend ainsi démontrer que cette guerre au Moyen-Orient qui de fait monopolise et même écrase aujourd'hui l'actualité ne détournera pas l'attention de l'Ukraine et par ailleurs que la Russie se trompe si elle pense pouvoir profiter du contexte géopolitique. C'est vrai que ce conflit a ouvert une fenêtre d'opportunité pour Moscou. On va évoquer tous ces sujets d'ici quelques instants avec notre invité. Juste avant, petit détour par Moscou puisqu'hier le ministère américain des Finances a donc annoncé l'autorisation temporaire de la vente du pétrole russe stocké sur des navires. C'est une correspondance signée Sylvain Tronchet.
L'émissaire pour les affaires économiques de Vladimir Poutine jubile sur les réseaux sociaux. Les États-Unis admettent la réalité. Sans pétrole russe, le marché mondial ne peut être stable, écrit Kirill Dmitriev au retour d'un voyage à Miami où il a notamment rencontré l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff. Clairement, l'annonce de la levée de sanctions américaines sur le pétrole russe est une bonne nouvelle pour Moscou qui va pouvoir profiter de la hausse des cours. L'agence Reuters a calculé que ses recettes d'exportation de brut pourraient doubler au mois de mars, au moment où les finances russes sont à la peine. L'annonce de Washington semble même susciter des vocations puisque la Thaïlande s'est dite prête à acheter du pétrole russe, elle aussi. Pour autant, les annonces du Trésor américain ne sont que temporaires pour l'instant, 30 jours, et ne s'appliquent qu'aux cargaisons actuellement en mer. Le Kremlin affiche d'ailleurs une satisfaction mesurée ce matin en rappelant que seuls des volumes importants de pétrole russe pourront stabiliser le marché, à son sens, façon de dire aux États-Unis qu'il faut aller plus loin.
Et comme annoncé, invité à présent de la rédaction, Guillaume Lascondjarias, directeur des études et de la recherche à l'Institut des hautes études de la Défense nationale. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Volodymyr Zelensky est donc arrivé ce matin à Paris. Il s'agit de la 12e visite du président ukrainien en France depuis le début de l'invasion russe. Le message clé, c'est donc de démontrer qu'aucune crise ne saurait détourner notre attention de cette guerre aux portes de l'Europe qui est entrée il y a peu dans sa 5e année. Sauf qu'on vient de le voir, les deux conflits sont désormais aujourd'hui intimement liés.
Alors oui, ils le sont d'ailleurs doublement. Ils le sont à la fois à cause de ce que l'on appelle aujourd'hui la lutte anti-drone et dans lequel les Ukrainiens ont une capacité et une doctrine qui est extrêmement intéressante, pas simplement pour les États du Golfe, mais aussi pour les États-Unis, mais aussi à cause, et ça vient d'être évoqué dans le sujet juste avant, sur la question du pétrole russe. On sait que le pétrole russe sert aussi de manne et de trésor de guerre pour Vladimir Poutine dans sa guerre contre l'Ukraine. Donc en fait, il y a une interconnexion des théâtres d'opération, une interpénétration de ces guerres, et finalement solidifier, ou du moins résoudre la crise ukrainienne et résoudre la crise iranienne ne sont pas finalement si déconnectés que cela.
Vous évoquiez brièvement la lutte anti-drone. C'est vrai que depuis que l'Iran frappe les pays du Golfe, on a beaucoup entendu dire que les compétences ukrainiennes acquises dans la lutte anti-drone offraient un levier de négociation important à Volodymyr Zelensky. Est-ce que c'est véritablement le cas ou bien est-ce qu'il s'agit avant tout d'un effet de communication activé par Kiev pour exister dans ce contexte?
Alors, je commencerai par la deuxième partie. Il y a effectivement une communication très importante de Kiev et Zelensky a tout de suite rappelé en montrant une carte à jouer que, effectivement, l'Ukraine avait une carte à jouer dans ce conflit-là en termes de connaissances et de compétences spécifiques militaires. Mais la réalité est que, oui, l'Ukraine s'est démontrée aujourd'hui comme étant la principale grande nation capable de maîtriser l'intégralité du champ de la lutte contre les drones, mais aussi avec les drones. Il faut bien le donner comme compréhension, il y a trois éléments qui sont essentiels. D'abord, les drones font aujourd'hui partie intégrante du combat. En Ukraine, ils sont partout et ils sont très nombreux. Rien que pour 2026, on annonce déjà que l'Ukraine va se doter ou construire 7 millions de drones. La deuxième point, c'est que ils sont capables non seulement de les utiliser contre effectivement leur adversaire, mais ils sont aussi capables d'arrêter et de lutter. Et c'est ça qui intéresse notamment les monarchies du pétrole, dans le Golfe arabo-persique. Pourquoi ? Parce que ils sont capables d'arrêter les fameux drones Shahed. Ils ne le font pas simplement en utilisant eux-mêmes des drones, mais aussi en intégrant cette lutte anti-drone, comme on l'appelle, dans un continuum beaucoup plus important.
Et le troisième point,
en utilisant des mitrailleuses. Et le troisième point, c'est le plus important, c'est la dimension industrielle. Comment est-ce qu'on monte très rapidement en capacité pour lutter contre des drones qui sont nombreux, pas chers et qui sont immédiatement disponibles.
Des instructeurs ukrainiens ont d'ores et déjà été envoyés dans les pays du Golfe. Est-ce que les autorités de Kiev espèrent obtenir quelque chose en échange? Est-ce que l'on sait, par exemple, si des accords ont été conclus?
Non, on ne sait rien forcément sur les accords qui ont été conclus, mais on sait quelles sont les attentes de Kiev. Kiev, en réalité, part du principe que utiliser notamment des intercepteurs, des missiles antimissiles, qui coûtent plusieurs millions de dollars contre des drones, c'est du gâchis économique et industriel. Et donc, ils proposent plutôt, eux, de récupérer une partie de ces intercepteurs et de mettre à disposition à la fois leur capacité industrielle, leur capacité à générer de la montée en puissance et de la mise à disposition de ces fameux instructeurs ukrainiens qui sont aujourd'hui parmi les plus capés au monde. Et on voit bien qu'il y a effectivement une forme d'échange qui n'est pas, à mon avis, inintéressant pour Kiev.
Lorsqu'on replace malgré tout tout cela dans le contexte donc de la concentration à l'œuvre aujourd'hui des moyens militaires américains sur le théâtre du Moyen-Orient, est-ce que cette opportunité pour Volodymyr Zelensky ne paraît pas malgré tout un peu anecdotique ?
Non, elle ne l'est pas parce qu'on se rend compte que, y compris dans la lutte anti-drone, les Américains semblent avoir été en partie surpris par la capacité de réaction et ces frappes nombreuses de drones du côté iranien. Alors effectivement, hein, les Shahed dont on parle, ils les connaissaient, mais cette capacité à faire du reverse engineering, à développer très rapidement des contre-mesures, il y a peu de pays comme l'Ukraine qui sont capables de le faire, et je pense que même les États-Unis sont intéressés par ce savoir-faire ukrainien qui est important.
C'est bien compris. Merci Guillaume Lascandjarias, donc directeur des études et de la recherche à l'Institut des hautes études de la défense nationale, d'avoir répondu à notre invitation ce midi. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Le Pakistan a repris ce matin ses bombardements sur son voisin afghan.
À Kaboul, 4 personnes ont trouvé la mort et 15 autres ont été blessées. Une femme et un enfant ont également été tués à Jalalabad et puis à Kandahar, la ville du sud où réside reclus le chef suprême des talibans. Là-bas, des frappes ont touché un dépôt pétrolier. Déjà un peu plus tôt dans la semaine, 7 personnes avaient perdu la vie, dont des enfants, en raison de tirs dans les régions frontalières. Voilà des mois maintenant qu'Islamabad accuse l'Afghanistan d'accueillir des militants des talibans pakistanais.
Midi et 41 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Depuis le début de ce journal, on aura parlé tour à tour de la guerre au Moyen-Orient et en Ukraine. Deux conflits aux conséquences désastreuses pour les approvisionnements en énergie, c'est ainsi que depuis quelques jours, Emmanuel Macron multiplie les prises de parole pour vanter l'atome indispensable, selon lui, à la compétitivité et la souveraineté du pays. Restait à savoir comment financer le nouveau programme nucléaire dans l'Hexagone. Et la réponse a été apportée hier par le chef de l'État lui-même. Celui-ci sera financé, Annabelle Grelier, à hauteur de 60% par le livret A.
C'est en effet un changement de taille pour le produit d'épargne préféré des Français. En France, plus de 56 millions de Français détiennent un livret A, ce qui signifie qu'une partie de leur épargne, qu'ils soient favorables ou non au nucléaire, va désormais financer le programme de nouveaux réacteurs nucléaires EPR2. Selon le chiffre de la Caisse des dépôts et consignations, la manne du livret A s'élevait à 447,8 milliards d'euros en janvier 2026. Jusque-là, une moitié était dédiée à des prêts de long terme, au logement social et à destination de la politique de la ville, l'autre moitié est investie dans des titres de dette et dans des actions de sociétés cotées. Le coût global du programme EPR2, qui prévoit la construction de 6 nouveaux réacteurs de forte puissance sur plusieurs sites français, notamment à Penly, Gravelines et Aubugey, a été évalué par EDF à environ 72,8 milliards d'euros. La décision finale d'investissement doit être prise à la fin de l'année et la mise en service du premier réacteur est envisagée à l'horizon 2038. Pour les épargnants, le fonctionnement du livret A ne changera pas. Le taux de rémunération continuera d'être fixé à l'identique et le capital reste disponible à tout moment. Mais le défi pour l'exécutif sera de prouver que le financement du nucléaire ne se fera pas au détriment de la construction de logements sociaux ou de la rénovation thermique, deux secteurs aujourd'hui déjà lourdement affectés par la crise des finances publiques.
La fin peut-être d'un chapitre de l'histoire industrielle made in France.
Oui, c'est aujourd'hui que la justice doit décider de l'avenir de Brandt, ex-fleuron tricolore de l'électroménager. Le tribunal va trancher entre les 36 offres déposées pour la reprise des actifs du groupe centenaire, ce qui signifie que la plupart de ces propositions visent principalement en réalité les stocks et autres pièces détachées dans le but de combler les créances de l'entreprise estimées à environ 200 millions d'euros. On n'est donc plus du tout dans la logique du redressement judiciaire. Et d'ailleurs, seule une poignée d'offres inclut la reprise d'anciens salariés.
Le premier tour des élections municipales, ce sera dimanche.
Et dans l'immense majorité des cas, 9 communes sur 10, le nom du nouvel édile, le plus souvent sans étiquette politique et sans véritable opposition, sera connu dès ce week-end. À l'inverse donc des moyennes et grandes villes qui, elles, accueillent en réalité la majorité de la population et qui font l'objet non seulement d'un nombre accru de listes, mais aussi d'une campagne nettement plus enflammée, de sorte qu'au-delà d'ailleurs des polémiques individuelles, s'y dessinent déjà des stratégies dans la perspective de 2027. Quelles alliances à gauche? Va-t-on assister à une déferlante du Rassemblement National ou à une préfiguration de l'union des droites?
Et puis on pourrait encore ajouter cette question, dans quel état le Bloc central sortira-t-il de ces élections?
Oui, la coalition n'aborde pas le scrutin dans les meilleures conditions. Les quelques figures identifiées, engagées en tête de liste, comme Édouard Philippe au Havre, François Bayon à Pau ou Christian Estrosi à Nice, ne sont assurés de rien, mais paradoxalement, Rosalie Lafarge, ce qu'on a pu appeler la majorité présidentielle donc pourrait limiter la casse. Plus exactement, il sera difficile de la considérer comme un grand perdant dès lors que cette coalition, au fond, a assez peu à perdre.
En 2020, les macronistes ont voulu planter des drapeaux partout. Ils n'ont réussi quasiment nulle part.
On ne pourra pas nous dire demain qu'on va perdre des villes. On ne peut que gagner des pions.
Réaliste, le sénateur Renaissance François Patriat assume le changement de stratégie du parti et la volonté cette fois de nouer des alliances.
C'est une preuve à la fois de lucidité et d'humilité. On a compris que emmener des listes Renaissance toutes seules, c'est les envoyer dans des difficultés. Il est plus intelligent de commencer aujourd'hui à comprendre qu'il faut s'allier avec des gens de droite et du centre et de gauche pour pouvoir construire des forces locales qui pourront s'opposer aux extrêmes.
Et du côté d'Horizon aussi, on joue la modestie. Pas d'objectif chiffré pour les premières municipales du parti d'Édouard Philippe, insiste la présidente de son mouvement de jeunesse, même si Marine Cazard jure ne pas redouter le vote sanction.
Je dirais pas aujourd'hui que ce qui intéresse particulièrement les gens, c'est l'étiquette politique, mais plutôt l'action du maire. Et chez Horizon, on a beaucoup de maires sortants qui ont pour la plupart un bon bilan. Et j'insiste là-dessus, les élections municipales sont très utile aussi pour un parti comme le nôtre, parce qu'il y a évidemment le maire, mais il y a aussi l'exécutif local, donc l'ensemble des conseillers municipaux, adjoints, qui pourraient être élus, et on a aussi un enjeu pour nous de s'implanter localement dans des territoires où un jeune parti a besoin aussi de trouver sa place.
Mais pas à n'importe quel prix, souligne déjà au Modem le député Erwan Balanant.
Ma grande inquiétude de cette élection, c'est de voir l'attitude des uns et des autres au soir du premier tour, et parfois la tentation qu'auront certains pour garder des villes à faire des alliances qui sortiront du spectre républicain. Ça va se passer certainement à gauche, mais ça va aussi se passer à droite. Et nous, au Modem, on est très clair, on ne participera pas à ce genre de choses.
Ni extrême droite, ni extrême gauche, disent pour l'instant les formations du Bloc central, qui toutes jouent dans ces élections locales au moins une partie de leur avenir national.
Quelles sont aujourd'hui les conséquences économiques de la désinformation?
C'est tout l'objet d'une étude publiée hier, de laquelle il ressort ce chiffre astronomique. La désinformation a coûté 417 milliards de dollars en 2024 à l'échelle mondiale. Alors, dans le détail, ce phénomène pèse extrêmement lourd financièrement pour tous ceux qui essayent, tant bien que mal, de le contenir. Et à l'inverse, il rapporte forcément beaucoup d'argent à tous ceux qui diffusent cette désinformation. Et pour cela, Chloé Geffroy, eh bien, l'intelligence artificielle joue désormais un rôle majeur.
Sur les plateformes comme Meta ou X, plus de 16 milliards de dollars ont été générés à l'aide de contenus frauduleux. Des fraudes de plus en plus crédibles à cause de l'intelligence artificielle, explique Julie Goffre-Charrier, maître de conférence à l'université Paris-Saclay, spécialisée dans le droit du numérique.
Ça a de multiples formes. On sait par exemple qu'il y a beaucoup d'exploitations malveillantes de deepfake, par exemple par messages écrits, par messages vocaux, voire maintenant par messages vidéo en réalité. Et là, on voit très bien que l'intelligence artificielle, elle est en capacité de faciliter la tâche de personnes qui ont des intentions malveillantes.
Les deepfakes, contenus créés par l'IA capable de reproduire un visage ou une voix, qui font aussi irruption dans le monde de l'entreprise.
Des salariés qui ont la main sur les comptes d'entreprise et qui tombent dans le panneau de même de fausses visioconférences en réalité où on leur donne des indications de virements à faire, etc. et qui en fait sont des deepfakes.
Des techniques qui sont aujourd'hui beaucoup plus accessible car moins coûteuse, d'où l'importance d'accélérer la sensibilisation, toujours selon Julie Goffre-Charrier.
C'est-à-dire expliquer, réexpliquer, montrer aux gens ce que c'est et à quel point ça peut être convaincant. Et en fait, effectivement, à introduire dans l'esprit de la société, dans le sens le plus large possible, une espèce de, alors c'est un peu triste, hein, mais de suspicion de principe.
Les géants de la tech qui tentent de leur côté d'adapter leur système de modération, il y a 2 semaines, Meta a annoncé porter plainte contre des escrocs présumés au Brésil et en Chine, accusés d'arnaque à la deepfake pour promouvoir des produits sur ces plateformes.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec des averses soutenues sur un large tiers nord-ouest du pays. Partout ailleurs, nuages et éclaircies devraient se disputer le ciel. Quant aux températures, elles seront comprises entre 9 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Olivier Vogel pour le prochain journal de la rédaction.